Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Vous suivez bien la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est ton plaisir de vous retrouver pour le journal de ce jeudi 31 août 2023. Tout d'abord les titres. 34%, c'est la note minimale au test d'accès à l'école post-fondamentale pour être admis. Annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Éducation. La même note pour les élèves gatois leur donnera un accès automatique aux écoles à internat. Et puis 5 ans, c'est le temps que viennent de passer les habitants de la colline Zégué en commune et province Kitega à réclamer les installations de l'eau et de l'électricité, mais en vain. Dans ce journal, ils expriment leur ras-le-bol. En Tanzanie, les autorités disent une chose et font son contraire dans les camps de réfugiés. En Douta, par exemple, des femmes affirment avoir été maltraitées alors que le chargé des questions des réfugiés au ministère de l'Intérieur avait rassuré les réfugiés, promettant de trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
21 678 élèves sur un effectif de 73 824 lauréats ont réussi avec 50% et plus au concours qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. L'annonce a été faite ce jeudi par François Habyalimana, le ministre de l'Éducation. C'était lors d'un point de presse sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Toujours selon le ministre, seuls ceux qui ont obtenu 34% auront droit à l'enseignement post-fondamental. Écoutez-le.
Au cours de l'exercice 2022-2023, nous avons procédé à l'évaluation des élèves au sein du cycle fondamental pour qu'ils soient orientés à l'enseignement post-fondamental. De manière globale, le concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental s'est passé dans de très bonnes conditions. Pour un effectif de 73 824 candidats, 21 678 élèves ont une note supérieure ou égale à 50%, soit 29,4%. Après cette évaluation, nous avons fixé les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental et du budget disponible pour l'entretien des élèves internes, mais également après avis du Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 68 sur 200, soit 34%. Le taux de réussite au concours national est donc de 85,76%.
Selon le ministre de l'Éducation, ceux qui sont admis aux écoles à système d'internat sont les élèves qui auront réussi avec 58% au moment où les Batois ayant eu un pourcentage de 34% y auront accès d'office, suivez encore le ministre.
Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classe si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 116 sur 200, soit 58%. Nous soulignons en particulier que sur demande de la population, lors des descentes effectuées dans différentes provinces de notre pays, les élèves qui seront orientés dans la section langue avec une note d'au moins 58% auront droit à l'internat. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, les lauréats du concours national de la communauté batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 68 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. Sur 126 candidats batois qui ont passé le concours national dans tout le pays, 104 ont réussi le concours national. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 68 sur 200, soit 34%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat.
C'était le ministre de l'Éducation. Les habitants de la colline Zégué, en commune et province d'Itega, se lamentent. Ils disent qu'ils viennent de passer plus de 5 ans sans eau ni électricité, alors que pendant tout ce temps, ils en font la demande sans relâche. Il faut savoir qu'ils sont fatigués par des promesses non tenues, par des services habilités. On fait point avec mon fils Nyongé.
Des sources en provenance de la colline Zégué nous disent que les habitants ont posé ce problème de manque d'eau et d'électricité depuis 5 ans, mais sans succès. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ils ne sont pas servis en eau et en électricité, alors qu'ailleurs dans les autres coins, même éloignés de la ville de Gitega, ils n'ont pas ce problème. Ce manque d'eau et d'électricité engendre beaucoup de conséquences, entre autres qu'aucun projet de développement ne peut s'y réaliser. La population de Zégué évoque le problème pour les élèves de pouvoir faire leurs études du soir et pour les enseignants de préparer leurs leçons. Ce que les habitants ne comprennent pas aussi, c'est chez le président du Sénat burundais qui habite sur cette colline, il y a de l'eau et de l'électricité. Il pense que cette autorité devrait faire un plaidoyer pour que les autres habitants de la colline puissent aussi être servis. Sur cette colline, il y a un nouveau centre de santé. Les habitants se réjouissent quand même que ce centre de santé ait de l'eau et de l'électricité. Des sources à Zégué informent que la principale cause de manque d'eau et d'électricité sur cette colline, c'est qu'il y a beaucoup de membres du parti CNR. D'autres sources disent que c'est plutôt un transformateur de la régie des eaux qui a été détourné par le conseil communal pour aller servir sur la localité de Mubuga dans la même commune de Gitega. À cause de ce problème, la population dit faire face à beaucoup de problèmes, la criminalité la nuit, les vols et les viols, sans oublier des maladies de manque d'hygiène.
Bon fils Nyongere, la récente distribution du sucre en province Makamba à l'endroit des commerçants de cette province a été caractérisée par plusieurs irrégularités. Les consommateurs de ce produit indiquent que des conséquences néfastes n'ont pas tardé à se manifester. Parmi ces conséquences figure le non-respect du prix du kilo du sucre fixé par le gouvernement, car les commerçants continuent de spéculer sur ce produit. Le point avec Karine Dussalé.
Selon ces consommateurs du sucre de la Sosumo de la province Makamba, la récente distribution du sucre a été émaillée de plusieurs irrégularités. Les détaillants du sucre essaient de retarder sa distribution pendant plus longtemps. Ces détaillants expliquent qu'ils attendent les administratifs à la base pour que ces derniers fassent la supervision de sa distribution. Mais, selon les consommateurs, les détaillants finissent par distribuer ce sucre à l'insu des demandeurs et en fin de compte de le cacher pour le vendre à des prix exorbitants allant de 5 000 à 6 000 francs par kilo. Les commerçants indiquent qu'auparavant, ils gagnaient une somme de 5 000 francs burundais car la société sucrière du Mosso leur donnait un sac qui dépassait 50 kilos. Pour le moment, la Sosumo distribue des sacs de 48 kilos pour la plupart, ce qui les pousse de travailler à perte. Les consommateurs demandent à l'administration, à la police et aux représentants du ministère ayant le commerce dans ses attributions au niveau de la province de faire en sorte que la distribution se fasse sans spéculation. Signalons que cela est ainsi au moment où la récente distribution faite la semaine dernière, alors qu'il venait de passer plus d'un mois sans qu'on puisse même trouver une cuillère de sucre.
Inzamba.
Suite de ce journal, des femmes burundaises réfugiées vivant dans le camp de réfugiés d'Onduta ont été victimes de mauvais traitements de la part de la police tanzanienne dans la soirée de ce mercredi hier. Pourtant, cet incident s'est produit quelques jours après des déclarations plutôt rassurantes de Sudi Mwakibaki, en charge des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Ce dernier avait alors affirmé qu'il venait de prendre connaissance de la situation précaire des réfugiés et qu'une solution durable serait trouvée. Un des réfugiés contactés par la radio Inzamba a rappelé à Sudi Mwakibaki sa promesse de suivre de près cette situation comme promis. On écoute un des réfugiés, sa voix a été modifiée pour sa sécurité.
Malheureusement, c'est le statu quo, exemple dit. Exemple, c'est ce qui s'est passé hier en 2012, où la police est venue avec une femme qui vendait des légumes devant sa maison. Il a été brutalement arrêté et conduit à la police. Ce qui montre que Mwakibaki n'a pas suivi d'effet positif. Nous demandons alors au gouvernement, à Mwakibaki, c'est aussi vrai de près ce qui se passe dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Et on va faire d'être notre porte-parole afin que le discours positif de Mwakibaki de la semaine passée soit suivi des actes concrets qui peuvent satisfaire les réfugiés qui vivent dans cet enfer depuis plus de 8 ans.
En Tanzanie toujours, et pour terminer, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu disent que des propos menaçants sont en train d'être tenus par des autorités tanzaniennes pour les contraindre à rentrer au pays. Ils se basent sur le discours tenu la semaine dernière par le commissaire en charge des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, Sudi Mwakibaki. Celui-ci a annoncé que des mesures plus sévères seront prises prochainement contre les réfugiés de ce camp s'ils refusaient de rentrer au Burundi, car la paix y est aujourd'hui garantie. Les détails avec Joséphine Jones-Mundiman.
Ces réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie disent que des menaces sont en train d'être proférées sur eux par les autorités tanzaniennes pour les contraindre de rentrer au pays par force. Selon nos sources sur place, ils se basent sur les propos récemment tenus par Sudi Mwakibaki, le responsable du département ayant en charge des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur tanzanien. Sans mâcher les mots, dans une réunion tenue la semaine dernière à Nyarugusu, il a dit que très prochainement, les hôpitaux seront fermés dans les camps et qu'il n'y aura pas passation des examens nationaux dans les camps. Il a même dit que d'autres mesures beaucoup plus sévères seront prises et qu'il n'y a aucune raison qui empêcherait les réfugiés burundais de rentrer au pays. Le même discours a été relayé par le responsable du camp de Nyarugusu qui a dit que la paix est garantie au Burundi. Pour le moment, les réfugiés burundais sont en train de regagner le pays, non pas par leur volonté, mais par peur, comme un parmi eux le témoigne.
C'est vrai que les gens sont en train de se rapatrier, non pas par leur propre volonté, mais par la force, suite à des mesures draconiennes qui sont prises par les autorités. Oui, les gens sont en train de se rapatrier sous une piscose de paix. Ce n'est pas leur propre décision qui les pousse à regagner le pays. Ça vient des responsables de ce camp. Ils ont dit, si on ne rentre pas au pays, ils vont tout bloquer. Nous demandons aux différentes organisations humanitaires pour qu'elles interviennent pour faire respecter le droit des réfugiés burundais.
Ces réfugiés du camp de Nyarugusu estiment que si le gouvernement tanzanien n'est plus à mesure de les garder sur son territoire, il laisse d'autres pays capables de respecter les conventions internationales qui garantissent les droits des réfugiés leur accorder asile. Face à toutes ces lamentations, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version de Sudi Mwakibaki pour plus de détails sur son sujet.
C'est par vous, Joséphine Jones-Undimana, que je termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzambarete Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.